musique.
Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Namoury Dosso.
Merci d'être avec nous jusqu'à 9h, temps universel, l'antenne est à vous. Dans 30 minutes, nous ouvrirons le débat en Côte d'Ivoire. Hier, Tidjane Thiam, le chef du PDCIRDA, des principaux partis d'opposition, a été radié de la liste électorale. La justice a estimé qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne en acquérant la nationalité française en 1987. Cette décision de justice n'est susceptible d'aucun recours. Que pensez-vous de cette radiation? Comprenez-vous ce jugement? Enfin, quel avenir pour le PDCI-RDA à 6 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire? Vos réactions nous intéressent. Le standard est ouvert. 33 9 693 693 70. Je lirai également les très nombreuses réactions et commentaires que vous nous avez transmis via le WhatsApp et le Facebook de l'émission. Mais d'abord, votre rendez-vous pour mieux saisir et comprendre l'actualité avec vos questions, auxquelles répondent des journalistes de la maison et des experts. On débute à Lomé, à la capitale togolaise, avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour la RFI.
Alors vous souhaitiez en savoir davantage au sujet d'une information pour le moins surprenante, l'arrestation de 4 personnes dans une affaire de trafic de fourmis. Pour vous répondre Jean-Claude, nous sommes en ligne de Nairobi au Kenya avec notre correspondante Alban Tiroir. Bonjour Alban.
Bonjour Namoury, bonjour à tous.
Alors Jean-Claude, on écoute vos questions.
Oui, il y a la semaine, juste la semaine passée, j'ai écouté sur la radio internationale, soi-disant 4 individus avaient été arrêtés pour trafic de fourmis. Je ne comprends pas. Quelles sont les circonstances de ces arrestations?
Alors Jean-Claude Alban Tiroir vous répond.
Alors, il y a 2 affaires différentes. 2 jeunes Belges, 19 ans d'abord, qui ont été arrêtés au début du mois dans le comté de Nakuru, dans le centre du Kenya. Les autorités les ont trouvés en possession de 5000 fourmis vivantes, réparties dans plus de 2000 tubes à essai et seringues, pour une valeur estimée à 7 800 €. L'autre affaire...
Nous avons un léger problème de connexion avec Alban Tiroir. Alban Tiroir, nous vous avons perdu hein, quelques secondes. Donc vous nous disiez que la valeur estimée était estimée à 7 800 $. C'est bien ça?
C'est bien ça. Et donc il y a une deuxième affaire qui implique un Kenyan et un Vietnamien qui ont été arrêtés eux aussi au début du mois, mais à Nairobi, en possession de quelques centaines de fourmis pour une valeur estimée à 1 500 $. Pour les 2 affaires, les contenants avaient été modifiés, avec du coton notamment, pour permettre aux insectes de survivre pendant au moins 2 mois, ce qui a amené les autorités kényanes à dénoncer une opération préméditée. Les 4 arrêtés ont plaidé coupables la semaine dernière à des accusations de possession illégale et de trafic de faune sauvage vivante. Ils sont pour le moment en détention. Une comparution devant les tribunaux est prévue ce matin, qui devrait nous donner plus d'informations sur la date du verdict.
Alors Jean-Claude, vous aviez une autre interrogation.
Oui, vraiment. Peut-on vraiment arrêter quelqu'un pour trafic de fourmis?
Alban Tiroir.
Oui, alors le Kenya a pris il y a plusieurs années des mesures très fortes pour lutter contre le braconnage. Et aujourd'hui, toute la faune sauvage est très protégée et les insectes en font partie. La loi stipule qu'il faut un permis spécial délivré par les autorités pour exporter toute espèce animale vivante en dehors du pays, même des fourmis donc. Et les 4 personnes qui ont été arrêtées n'avaient pas ce permis. Les 2 jeunes Belges ont assuré devant les tribunaux ne pas savoir que la collecte de fourmis sauvages était illégale, mais c'est donc bien le cas au Kenya. Les autorités considèrent aussi que la tentative d'exportation des fourmis de la part des 4 détenus correspond à de la biopiraterie. La biopiraterie, c'est l'action de s'approprier à des fins commerciales une ressource naturelle qui était accessible à tous, sans contrepartie financière pour les populations locales. Or, Nairobi considère que l'exportation illégale de ces fourmis porte atteinte à ses droits souverains sur sa propre biodiversité et pénalise les communautés locales en les privant de potentiels bénéfices écologiques et économiques. Derrière cet argument, il y a des implications environnementales. Les fourmis jouent un rôle important dans la nature. Elles contribuent à l'aération du sol, elles jouent un rôle de décomposeur en se nourrissant de déchets organiques et enfin, elles sont source de nourriture pour les oiseaux.
Alban, est-ce qu'il y a déjà eu des précédents d'autres arrestations pour trafic de fourmis dans le pays?
Oui, en 2023, trois personnes avaient déjà été arrêtées pour avoir tenté d'exporter illégalement des fourmis vers la France. Les trois ont été relâchés sous caution le temps du procès. Et les dernières arrestations du début du mois inquiètent le Kenya Wildlife Service, l'agence kenyane de protection de la vie sauvage, qui note une nouvelle tendance, une évolution du trafic illégal d'animaux, passant, je cite, de mammifères emblématiques à des espèces moins connues, mais essentielles à l'équilibre écologique.
Et donc, ce qui signifie qu'il y a un marché pour ces fourmis?
Eh oui, tout à fait. D'après les autorités kényanes, les fourmis étaient destinées au marché européen et asiatique. Parmi celles qui ont été saisies, il y avait des messors céphalotes. C'est une espèce originaire de l'Afrique de l'Est qui est très prisée des collectionneurs pour plusieurs raisons, pour leur couleur rouge d'abord, mais aussi pour la taille de leurs reines qui peuvent atteindre jusqu'à 24 mm. Et enfin, parce que ce sont des fourmis qui se reproduisent en grand nombre. Une reine messor céphalote peut se vendre aux alentours de $150, mais leur exportation du Kenya sans permis est donc bien illégale.
Jean-Claude, avez-vous la réponse, les réponses à vos interrogations?
Oui, oui, vraiment.
La
réponse est vraiment pertinente, c'est bon.
Eh bien, belle journée à vous, à Lomé, Jean-Claude. On remercie également Alban Tiroir, correspondante de RFI à Nairobi, au Kenya. Nous restons justement à Lomé, la capitale togolaise, où nous accueillons cette fois Banam. Bonjour, Banam.
Bonjour, monsieur Namouli.
Alors, Banam, vous vous interrogez sur les relations entre le pouvoir russe et les talibans qui dirigent l'Afghanistan. Pour cela, nous avons fait appel à notre correspondante à Moscou, en Russie, Anissa El-Jabri. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Alors, Banam, on écoute votre première question.
Oui, merci bien. J'ai suivi sur RFI que la Russie avait retiré les talibans de la liste, de sa liste d'organisations terroristes. Pourquoi les autorités russes dialoguent avec les talibans depuis plusieurs années alors qu'ils étaient sur leur liste noire jusqu'à aujourd'hui?
Eh bien, Banam, notre correspondante Anissa El-Jabri vous répond.
Alors, précision d'abord, hein, la liste sur laquelle se trouvait le mouvement des talibans depuis 2003, c'est la liste des organisations dites terroristes. Il y a d'autres façons en Russie de mettre des mouvements sur ce qu'on peut appeler informellement une liste noire. Le pouvoir peut par exemple caractériser un mouvement d'extrémistes. C'est le cas par exemple de la fondation Navalny et de tous ceux qui s'en approchent. Alors, pour revenir aux talibans, eh bien en fait la Russie a une tradition de suivre le formalisme juridique, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que le pays pratique, hein, notamment dans sa diplomatie. Moscou avait donc déjà reçu à plusieurs reprises des émissaires talibans sur son sol, et ça avant même leur retour au pouvoir en 2021. Alors, quand c'était là, les ambassades occidentales évacuées dans l'urgence, eh bien l'ambassade russe, elle continuait à travailler à Kaboul. Et l'émissaire du Kremlin pour l'Afghanistan, Zamir Kaboulov, il avait fait ce commentaire: ce n'est pas pour rien que depuis 7 ans, nous avons des contacts avec le mouvement taliban.
Alors Anissa, on imagine hein, que la Russie ne s'intéressait pas seulement à son emprise diplomatique.
Vous avez raison, pour Moscou, un des gros sujets d'inquiétude, c'est le trafic de drogue, et singulièrement celui d'héroïne. Il remonte d'Afghanistan vers le nord et donc vers la Russie. Et puis, à l'époque déjà, en 2021, était énormément pointé le risque que faisait peser l'État islamique en Afghanistan. Alors cette organisation ennemie des talibans a plusieurs fois officiellement menacé la Russie, notamment pour le rôle qu'elle a joué en Syrie. Vous vous souvenez que Moscou était un parrain du régime de Bachar el-Assad. Alors cette organisation, elle est aussi jugée comme un risque majeur pour la stabilité des pays d'Asie centrale. Il y a la crainte d'une contagion ou même tout simplement du réveil de cellules dormantes. Et puis ces pays d'Asie centrale, eh bien, ils sont majoritairement dans l'orbite de la Russie et ils ont signé des accords de sécurité avec elle.
Alors Anissa, on se souvient que Moscou a justement été touché par un attentat du groupe État islamique au Khorassan, c'était en mars 2024.
Voilà, cette branche régionale de l'organisation djihadiste présente en Afghanistan, elle avait frappé, vous vous en souvenez certainement, la salle de concert du Crocus. 145 personnes avaient été tuées. Et oui, c'est de là qu'on peut dater l'accélération du rapprochement Moscou-Taliban. En juillet 2024, le président russe Vladimir Poutine avait dit considérer les talibans comme, je cite, des alliés dans la lutte contre le terrorisme. Et puis il avait signé à la fin de l'année dernière une loi qui permettait aux autorités russes de retirer leur nom de la liste des organisations terroristes. Alors, il faut quand même le dire, il n'y a pas que des intérêts de sécurité dans ce rapprochement. Il y a des enjeux économiques et ils sont assumés. Par exemple, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, s'était rendu fin décembre à Kaboul, et il y avait déclaré vouloir renforcer la coopération avec l'Afghanistan. On sait que la Russie pense au sous-sol afghan et notamment à ses minéraux.
Alors, Bana Malomé, est-ce que vous aviez une deuxième question pour Anissa El-Jabri ?
Oui, j'ai une deuxième question. Je voudrais savoir comment explique ce rapprochement.
Anissa El-Jabri à Moscou.
Alors, je vous ai pas très bien entendu, Banam, mais je comprends dans votre question que vous vous demandez si la Russie pourrait être le premier pays à reconnaître le gouvernement taliban. C'est sûr qu'on est là dans une victoire diplomatique importante pour Kaboul. D'ailleurs, ils s'en sont félicités très vite. Le ministre des Affaires étrangères avait remercié Moscou après la décision, salué dans un communiqué de son bureau, je cite, un développement important et une décision historique. Mais non, cette décision, elle n'équivaut pas, en tout cas à ce stade, à une reconnaissance formelle du gouvernement taliban. D'ailleurs, il n'a pas été reconnu par aucun pays, et ça, c'est notamment, on vous en parle souvent sur RFI, en raison de la situation absolument désastreuse des droits des femmes en Afghanistan. Alors, bon, il n'y a pas que la Russie, en tout cas, à entretenir des liens, des relations avec le taliban. Les talibans, on peut aussi citer le Pakistan, la Chine, l'Iran, beaucoup des pays d'Asie centrale dont on parlait à l'instant.
Anissa El-Jabri, merci pour vos explications. Banam, est-ce qu'on a répondu de la manière la plus convenable à vos interrogations ?
Tout à fait.
Eh bien, Banam, nous vous souhaitons une excellente journée à Lomé au Togo. Excellente journée également à tous les auditeurs qui nous écoutent sur le 91 FM au Togo. Un nouvel auditeur et nous a rejoint. Il s'agit de David. Il nous appelle du Tchad. Bonjour, David.
Bonjour Namori.
Alors vous, ce qui vous intéresse, c'est le bras de fer qui oppose Donald Trump et l'université de Harvard aux États-Unis. Vous avez la parole, David.
Exactement, Donald Trump a gelé les subventions de l'université d'Harvard qu'il accuse d'enseigner la haine et l'imbécilité. Mais concrètement, que reproche le président à cette université ?
Alors c'est un sujet qui fait réagir nombre d'auditeurs sur le continent africain. Et pour cela, nous avons fait appel à Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine, spécialiste en rhétorique présidentielle. Soyez le bienvenu, Jérôme Viala-Godefroy.
Merci, bonjour.
Alors notre auditeur au Tchad souhaitait savoir concrètement quels étaient les reproches que le président américain faisait à l'université d'Harvard.
Alors, il fait le reproche à Harvard, mais aussi à d'autres universités comme Columbia, par exemple, de tolérer un climat antisémite, et notamment dans le cas des manifestations pro-palestiniennes. Mais il fait aussi, au-delà de ses reproches précis, il leur reproche d'être des bastions en fait progressistes et de promouvoir ce qu'on appelle des politiques dites « woke », c'est-à-dire qui promeut la diversité, l'inclusion, la justice sociale. Et ça, il voit ça comme étant des hostiles à des valeurs républicaines, des valeurs conservatrices. Et donc, au-delà de cette question de l'antisémitisme, c'est vraiment l'objectif réel, c'est d'affaiblir les bastions culturels progressistes et d'imposer une nouvelle idéologie conservatrice aux universités. La preuve d'ailleurs que cette idée d'antisémitisme n'est pas vraiment quelque chose de réel, c'est qu'il y a effectivement des problèmes d'antisémitisme sur les universités, mais Trump lui-même a toléré et a minimisé par le passé l'antisémitisme d'extrême droite. On se souvient notamment pendant les manifestations à Charlottesville en 2017.
D'ailleurs, à ce sujet, des dizaines d'universités américaines, dont Yale, Princeton ou encore Harvard, dont nous parlons, ont dénoncé mardi l'interférence politique de l'administration Trump. David, vous avez une autre question pour notre invité.
Exactement. Quel pouvoir le gouvernement Trump a-t-il sur cet établissement privé ?
Jérôme Viala-Godefroy.
Alors, il se trouve que les établissements privés, même comme Harvard, reçoivent des fonds fédéraux et ils ont aussi une exemption fiscale en tant qu'établissement d'éducation. Et donc, ce que fait Donald Trump, c'est de menacer de retirer ces fonds fédéraux. Il se base là-dessus sur une loi qui s'appelle Title 6, qui est une loi, en fait, des droits civiques. Et cette droit d'état civique condamne en fait la discrimination sur les campus. Sauf qu'il ne passe pas par la procédure normale, il y a toute une procédure qui doit être faite, puisqu'il ne peut pas le faire de manière arbitraire. Et si c'était vraiment cette question de cette loi sur laquelle il se base, il faudrait qu'il passe par une procédure qui est très longue qu'il prouve qu'il y a eu vraiment une motivation derrière. Donc, pour l'instant, il y a des questions juridiques sur ce qu'il est en train de faire, que ça soit pour les fonds fédéraux ou pour l'exemption fiscale. Et en fait, on est sur des questions de liberté d'expression, puisque l'idée, c'est de reprendre le contrôle et d'avoir que le gouvernement fédéral est un contrôle sur le contenu des cours également qui sont utilisés, qui sont faits par ces universités.
Jérôme Viala-Godefroy, merci pour votre éclairage. David, avez-vous obtenu les réponses à vos questions ? Eh bien, merci à vous et on vous souhaite une belle journée au Tchad, le Tchad où on reste justement. Et cette fois, on accueille Adam de N'Djamena. Bonjour Adam.
Bonjour à vos correspondants à travers le monde.
Alors Adam, vos interrogations portent sur la situation au Liban. Et pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Karim Émile Bitard, spécialiste du Liban. Karim Émile Bitard, bonjour.
Bonjour.
Alors soyez le bienvenu. Adam, quelle est votre interrogation ?
J'ai lu sur le site de RFI que le président libanais plaide pour un dérèglement de Hezbollah. Alors, j'ai des questions. Quelle stratégie Joseph Aoun compte-t-il prendre pour amorcer un dialogue avec le Hezbollah sur ces sujets ?
Alors, Karim Émile Bitard répond tout d'abord à votre première question.
Alors, c'est une question extrêmement délicate qui se pose au Liban depuis plusieurs années, depuis l'arrivée au pouvoir du général Joseph Aoun il y a quelques mois. Cette question se pose avec encore plus d'acuité. Il n'y a pas véritablement de stratégie, à vrai dire. C'est pour cela que le président a insisté sur le fait que ce désarmement devait se faire à travers un dialogue. Le problème, c'est que le Hezbollah ne semble pas encore prêt à remettre ses armes à l'armée libanaise. Donc, le dialogue risque de ne pas être très fructueux, mais il y a des pressions internationales très fortes pour un désarmement du Hezbollah et une très large majorité de la population libanaise estime qu'il est grand temps que l'armée libanaise puisse asseoir sa souveraineté, son autorité sur l'ensemble du territoire. Est-ce que le Hezbollah va jouer le jeu ? Ce n'est pas encore sûr, il y a des divisions internes, mais en tout cas les pressions s'accentuent.
Adam, vous aviez une autre question pour notre invité ?
Alors, à l'heure actuelle, est-ce que le mouvement chiite libanais pourrait envisager un désarmement ?
Karim Émile Bitard.
Alors, ils commencent à accepter progressivement l'idée de remettre leurs armes lourdes à l'armée libanaise, mais se posera toujours la question des armes qui sont entre les mains des habitants du Sud-Liban, qui sont souvent des proches du Hezbollah, des sympathisants du parti, même s'ils ne sont pas encartés. Donc, le Hezbollah va probablement s'efforcer de donner une interprétation minimaliste de la décision du cessez-le-feu, qui était extrêmement contraignante pour ne pas entièrement désarmer. Mais la tendance lourde est plutôt à celle d'une réaffirmation de l'État libanais, de l'armée et des forces de sécurité. Le Hezbollah devra donner au moins quelques gages, au moins remettre ses armes lourdes au sud du Litani et progressivement, au fur et à mesure que l'État assoit son autorité, que les pressions internationales s'accentuent, nous espérons que l'armée deviendra la seule en mesure d'assumer le monopole de la violence légitime, ce qui est la définition d'un État en sciences politiques.
Adam, êtes-vous satisfait des réponses apportées par Karim Émile Bitard ?
Merci beaucoup, bonne journée.
Eh bien, on vous remercie tous les deux pour vos questions et pour les réponses de Karim Émile Bitar. Merci à vous, il est actuellement 10h29 dans 20 secondes. Le journal Afrique, juste après, on retrouve le débat d'appel sur l'actualité consacré à ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire sur la scène politique avec la radiation hier de Tidjane Thiam, le président du PDCI. La justice a estimé qu'il n'était plus ivoirien au moment où il a demandé à être candidat pour la présidentielle d'octobre prochain.